Herminia Malaquin, professeure de lettres classiques. Allô, Daniel. Écoute, ce matin, j'en ai marre d'entendre ces vieux barbons sur France Inter. Hein. Ça fait 46 ans. Hein. J'ai 46 ans. Hein. Mon poste, il va être supprimé. Je suis dans l'éducation nationale depuis 25 ans. Et j'entends dire 20 ans d'immobilisme dans l'éducation nationale. Hein. Alors moi, je vais dire, c'est 20 ans de réforme à la con. J'en ai marre d'entendre ces gens qui disent n'importe quoi. Moi, ça fait 25 ans que je me bats pour éduquer les gamins. Je suis fille d'immigrés, hein. J'ai réussi à devenir prof de lettres classiques grâce à l'école républicaine. Et moi, je vois des gens, fillons, là, qui sont en train de tout nous démolir, hein. Alors moi, je dis, il y en a marre. Prouvez-leur que l'éducation n'est pas immobile, hein. Immobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous pour le 10 mars et après. Foutez-les dehors.
Merci pour l'extraordinaire clarté d'analyse de vos invités, qui me permet, moi, petite ashkénaze de lointaine souche, de mieux comprendre ma propre ambivalence pour et contre Israël, pour et contre la Palestine. Suzanne Alfortville.
Salut Daniel. Excuse-moi, je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, et ton émission, là, aujourd'hui, fou là là, ça m'a fait un effet, dis donc. Je suis partie en Israël il y a 7 ans, par choix, par militantisme, parce que c'est mon peuple. Je suis revenue, écœurée, j'en suis encore malade, rien que d'y penser. Je voulais pas que mes enfants soient élevés là. Je voulais pas qu'ils voient cette haine. Je voulais pas qu'ils voient la façon dont on traitait les Palestiniens. Et aujourd'hui, voilà, je suis revenue en France. Je sais comment ton émission va être accueillie. Je sais de quoi tu vas être traité. Et j'ai encore plus honte. J'ai encore plus honte. Non pas que notre nation se soit construite sur cette histoire, mais comme tu disais, c'est le fait que on soit pas capable de le reconnaître. Et qu'aujourd'hui, on continue encore à véhiculer cette idée que, les Palestiniens, ils sont pas chez eux. Moi, maintenant, je sais même plus où militer, tu vois, parce que je sais comment en France ça va être, comment ça va être entendu, ton émission, je le redis encore, et les gens qui vont te traiter d'antisémite, ils ont même pas l'excuse d'avoir vécu en Israël comme moi. Ils ont même pas l'excuse d'avoir vu des morts de partout. Ils disent ça sans savoir. Ils disent ça parce qu'ils ont rien vu là-bas. Je te remercie, merci pour cette émission. Au moins, j'ai entendu quelqu'un qui disait tout haut ce que je pensais depuis longtemps. Ciao.
Oui, Monsieur Mermet, bonjour, c'est Paul de Paris. Alors, pour répondre à Monsieur Sipel sur des points historiques non évoqués dans votre émission de ce jour et jamais abordés dans vos reportages sur le Proche-Orient, je voudrais rappeler trois points qui me semblent avoir une petite importance. Premièrement, au lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, 5 pays arabes ont attaqué Israël. L'Égypte, la Syrie, la Transjordanie, le Liban, l'Irak, ainsi que des corps expéditionnaires du Yémen, d'Arabie Saoudite et bien sûr des troupes palestiniennes. Ils avaient rejeté le partage de la Palestine voté à l'ONU le 29 novembre 1947 et n'acceptaient pas du tout la création d'un État juif. Ils ont perdu cette première guerre ainsi que des territoires. Deuxièmement, entre 1948 et 1967, jamais les Palestiniens n'ont réclamé à la Jordanie une partie de leur territoire pour créer leur État. Troisièmement, si les Israéliens ont déclenché les hostilités en juin 1967 contre l'Égypte et la Syrie, c'est la Jordanie qui a attaqué Israël et qui a perdu la vieille ville de Jérusalem ainsi que la Cisjordanie. Alors je retourne la question à Monsieur Sipel. Qu'est-ce que les pays arabes et les Palestiniens refusent de savoir de leur passé ? Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, d'abord bonjour et félicitations pour votre émission. Alors je vais avoir l'édition, la maison d'édition du livre de Johnny Schiffer, Israël-Palestine, une passion française, et du livre du Sylvain Sipel, La Murée, la société israélienne dans l'impasse. Voilà, je voudrais avoir les maisons d'édition que vous n'avez pas données. Merci bien et félicitations pour la qualité de l'émission, c'était très bien.
Merci pour vos messages suite à l'émission d'hier avec effectivement Sylvain Sipel et Denis Sifer, deux auteurs qui traitent chacun du conflit israélo-palestinien. L'un, Denis Sifer, son livre, je le rappelle encore une fois, s'intitule Israël-Palestine, une passion française. Il s'attache à raconter notre passion française, pourquoi les Français s'intéressent à ce point et depuis si longtemps à la question israélo-palestinienne. Et puis le livre de Sylvain Sipel, Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse. Il se trouve que ces deux livres sont du même éditeur aux éditions de La Découverte. Merci de la qualité de vos observations, critiques, etc. C'est bien, c'est pondéré, on arrive à se causer. Et effectivement, il semble bien que le chantage à l'antisémitisme, ben, ça marche plus, ça marche de moins en moins. Monsieur Kukerman qui s'accroche désespérément à cette arme d'intimidation, mais visiblement, ça y est, ça ne marche plus. En tout cas, merci à tous. On reviendra sur ces questions dans les reportages que nous vous présenterons bientôt dans Là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, on s'intéresse aux suites d'un message qu'une auditrice avait laissé il y a quelques semaines sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au sujet de la psychiatrie. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Pau, le drame de Pau. Vous aviez été nombreuses d'ailleurs, pas mal de femmes, d'auditrices investies dans la psychiatrie, notamment des infirmières de psychiatrie qui avaient laissé des messages, mais aussi un peu tout le monde. Dans cette espèce de vague d'indignation, de colère, de rage après ce drame. Et puis bon, comme d'habitude, c'est une petite vaporisation d'indignation, saupoudrage, promesses ministérielles, et puis ça retombe. Donc c'est le moment de donner une suite au message que cette auditrice nous avait laissé sur le répondeur il y a quelques semaines au 01 56 40 37 37.
Oui, Daniel Mermet, ça fait 30 ans passé que je travaille en psychiatrie et la catastrophe qui est arrivée, nous, dans tous les hôpitaux psychiatriques de France, on la prévoyait. Depuis quelques années, toutes les décisions qui sont prises concernant la psychiatrie n'ont pas de sens. C'est n'importe quoi, n'importe comment. Y compris dans la construction des locaux, on n'est jamais concerté sur rien, ni les patients qui y vivent, et surtout pas les infirmiers qui y travaillent. Toutes les décisions sont prises par les gens qui ne savent pas ce que c'est que la psychiatrie, qui n'y viennent pas, qui ne se renseignent pas. Avant, il y a quelques années de ça, les cadres, quand ils étaient nommés, étaient issus du soin et connaissaient les services. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Les cadres sont formés ailleurs, on leur demande de ne pas s'impliquer, d'être au-dessus, mais ils sont tellement au-dessus qu'ils ne voient plus la réalité du tout, du tout, du tout. Et c'est nous qui sommes obligés de gérer une souffrance colossale de toute une population qui n'en peut plus. Et c'est épouvantable. Je crois qu'il est vraiment temps que les gens dans ce pays sachent qu'est-ce que c'est que la psychiatrie.
C'est un petit bâtiment à deux étages, hein.
Oui.
Attends, Simone, juste une seconde. Peut-être avant de commencer cette nuit dans ton service,
oui.
Il faut peut-être qu'on dise pourquoi on est là. On a décidé de venir ici parce qu'on a reçu plusieurs messages d'auditeurs ou d'auditrices qui nous ont appelés après le drame de Pau, un drame qui a été très médiatisé. On a l'impression que ça a énormément marqué les esprits comme un espèce de révélateur de la situation de la psychiatrie aujourd'hui. Enfin, on verra tout ça cette nuit avec toi.
Oui. Une et trois...
Fermer les portes.
Toujours fermer la clé.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Olivia Gesbert, Là-bas si j'y suis, la nuit des garde-fous.
Flight number 2, arriving from...
À peu près. que vous faites la ronde.
On va en faire une autre vers 5 heures. Là, c'est tout calme.
Quelle île, quelle nef, quel ghetto, quel asile, quel trou, qu'est-ce qu'on fout des fous? Quelle camisole de force chimique ou CI, chambre d'isolement ou alors assis sur un trône, une couronne royale d'électrodes sur la tête au-dessus d'un nid de coucou. La place du fou. Chaque époque, chaque société se définit par la place qu'elle alloue au fou. Jusqu'à l'âge baroque, à peu près, le fou a une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture et il vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes des fous, il y avait tout un théâtre consacré à la folie. Le fou lui-même avait une place dans la littérature. Il y avait une iconographie de la folie. Jérôme Bosch, Bruegel. Qu'est-ce qu'on fout des fous aujourd'hui dans la France de Célière et de d'Ouste-Blazy? Eh ben, on le sait, le fou est sous le tapis, caché, refoulé, occulté, évanoui. Car dans sa nuit, le fou nuit. Au moral des ménages, et c'est très important le moral des ménages, c'est capital le moral des ménages, et le fou désordre, et le fou traviole, et le fou pas rentable, et le fou pas gagnant. Out le fou, vous vous souvenez? Up or out, out le fou. Et il a fallu qu'on trouve la tête d'une femme sur une télé. Pas dans une télé, mais sur une télé, à Pau, dans un hôpital psychiatrique, pour que soudain, on crie au fou. La psychiatrie est malade. Avec Olivia Gesberg, on a eu envie, comme beaucoup, de parler de la folie et de la psychiatrie aujourd'hui dans notre pays. Mais on va commencer cette première émission par ceux qui sont les garde-fous, ceux qui, comme cette infirmière, ces infirmières de Pau ont été attaquées, blessées, l'écho qu'elles ont eu, qu'il y a eu dans la profession, un écho très très profond. Et on est allé à Marseille, à l'hôpital de la Timone, dans le service du professeur Naudin, dans l'unité 3, toute une nuit entière, avec les infirmières psychiatriques et infirmiers psychiatriques aussi, qui ont bien voulu nous recevoir. Et c'est cette nuit des garde-fous qui commence.
Folle de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage, folle de terreur et d'horreur, dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, pas horribles font sur moi comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma folie.
Ouais, ben on va faire, si tu veux, on va faire par chambre.
La
comme
56.
Ça. Voilà, ouais. Comme ça, ça conserve la confidentialité.
Alors, la 56, il est sorti donc avec femme et fille.
Oui.
Donc il s'est cassé la figure à la maison. Donc j'ai regardé, palpé, il a mal nulle part, sauf qu'il s'est fait un hématome dans le dos, donc j'ai mis de l'hémoclar, il est couché.
D'accord.
Donc la 57, il est venu nous trouver pour nous dire qu'il était pas bien, quoi. Il avait un grand désir de vengeance contre tous les gens qui avaient fait du mal. Donc ça le rongeait un petit peu cet après-midi. Donc on a fait un petit entretien, on a discuté il y a une demi-heure, et puis ça allait mieux. Voilà. 58 en perm, 59, il nous a testé plusieurs fois la porte. Donc au bout d'un moment, j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit j'en ai marre. La CI, elle est tranquille. Voilà, on lui a fait un plateau un petit peu plus chargé ce soir parce qu'elle s'ennuyait comme ça. On lui a dit le ventre plein, on dormirait mieux. 60, 61, pas de nouvelles. 62 en perme. 63, il restait au lit. Voilà. 64, elle est sortie cet après-midi avec sa fille. Au retour, elle a eu le traitement anxiolytique puisqu'elle n'était pas trop bien, quoi. Paru que dehors, ça va pas. Et bien qu'ici.
On est le cocon.
Voilà. 65... Alors elle n'était pas bien du tout en début d'après-midi, des abus auditifs, tout ça. Donc elle est venue, elle avait préparé tous ses bagages. Elle m'a dit emmenez-moi à l'isolement parce que les autres me disent que j'ai consommé des toxiques, que je me suis piquée, tout ça. Donc on a parlé un moment, ça n'allait pas après l'entretien, donc on lui a filé le traitement de SUP. Et ensuite, il y a un de ses éducs qui est venu la voir. Mmh. Et bon, c'est vrai que ça allait beaucoup mieux. Là, elle a pris un bain pour se détendre. Ça va. 66. Hier, il fumait apparemment du shit dans le service. Mmh. Voilà. 67, pareil, en chambre. 70, il est sorti avec son père. Mmh. Quelques allées venues, mais ça va, tranquille. Et 71, en perme, jusqu'à lundi soir.
D'accord.
Tu sais tout. Allez, bonne nuit.
Bon, ciao. Ciao. Au revoir. À demain soir. Ciao. Voilà, donc une petite relève habituelle. Bon, sauf qu'on n'aime pas entendre une nouvelle, quoi, quand quelqu'un se fait attaquer ou quand... voilà. Donc la violence, c'est toujours un réel problème en service. Donc voilà Gilles, qui est mon coéquipier de ce soir. Donc on va aller dans les salles de soins.
Les différences mentales sont-elles des maladies? Des questions qu'on ne se pose plus du tout. On s'en fout complètement. On s'en fout. Le fou, on s'en fout aujourd'hui. Le fou, c'est quelque chose qu'il faut dissimuler, qu'il faut cacher, qu'il s'agit de traiter, très souvent avec des médocs, des médicaments, et puis qu'on abandonne. C'est pas présentable. Voilà, on a mis ça. Au second plan, refoulement du fou. Pourtant, à l'occasion de ce drame de Pau, on nous a rappelé qu'un tiers de la population du globe a souffert, souffre ou souffrira de troubles psychiatriques. On nous a rappelé qu'entre 1989 et 2000, en l'espace de 11 ans, le nombre de lits en psychiatrie a diminué de 43%. Et on a indiqué que parallèlement, la demande n'a cessé d'augmenter. Les nombres de patients suivis dans le secteur public est passé de 700 000 en 1989 à 1,2 million en 2004. 1 150 000 Français ont consulté au moins une fois dans l'un des 830 secteurs de psychiatrie générale en l'an 2000. Il y a 12 500 psychiatres en France, dans le public ou dans le privé, mais ceux du public sont de plus en plus découragés et vont vers le privé. Encore un chiffre, 15% de la population française, 15% de la population française présente des troubles mentaux de gravité inégale, soit 9 millions. Voilà quelque chose qui s'appelle un déni. Ces chiffres sont énormes et personne ne les croit, sauf ceux qui ont les mains dans le cambouis et qui passent leur nuit ici dans cet hôpital de la Timone à Marseille. Simone et Gilles, qu'on vient de se saisir en train de prendre leur service de nuit après avoir pris les informations de l'équipe de jour et qui commencent leur ronde.
C'est un monsieur qui n'a pas de traitement, mais on rentre quand même. Et c'est vrai qu'on note tous la position qu'il peut avoir. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à voir s'ils ont bougé, s'ils vont bien, quoi. Parce qu'il y a parfois des gens qui se couvrent le visage ou qui dorment complètement tournés. Donc, pas hésiter à tourner autour du patient.
Quand ils sont là, les portes ne sont pas fermées à clé, hein ?
Non, jamais.
Non, aucune porte de le. Non, sauf la chambre d'isolement. Contre, on va peut-être le réveiller. Coucou. Bonsoir. Oh. C'est nous, c'est des infirmiers de nuit. C'est pour votre traitement.
Oui.
Eh bien, je voudrais que vous le preniez.
Oui, c'est mieux que l'autre fois.
Oui, voilà. Parce que hier soir, vous n'étiez pas content quand vous n'étiez pas réveillé.
C'est simplement la nuit, je ne sais pas bien.
Oui, hier soir.
C'était des cauchemars. Avec un député auquel j'ai vendu un appartement, qui était un sale con.
Et bon, ce soir, vous allez faire de plus jolis rêves ?
Je n'ai pas pensé à lui.
Ben voilà, pensez à quelque chose de positif.
C'est la première fois que...
De quoi ?
Je fais un cauchemar, c'est parce que vous ne m'avez pas donné mon traitement. Si vous m'aviez donné mon traitement, j'aurais pas pensé à ce con de député.
Vous dormiez profondément, donc on n'a pas voulu vous réveiller, mais on vous l'a donné après. Est-ce que vous voulez de la tisane ?
Je veux bien.
Ah, il va vous en donner. Elle est un peu chaude, donc attention de ne pas vous brûler.
Au lieu d'avoir dû faire pipi ?
Voilà, ça laisse le temps qu'elle se refroidisse un petit peu. Bonne nuit.
C'est ici que tu plonges ton nez dans ton décolleté ?
Non, c'est là-bas.
C'est plus tard.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé un peu vous balader ?
Non, je suis bouclé.
Ah oui, c'est vrai que on a pris des mesures, c'est ça ?
Coercitive.
Vous savez pourquoi ? Pour que ça dure.
Ben oui.
Allez, on vous laisse.
Merci.
Ils ont été punis pourquoi ?
Bah parce qu'ils fumaient.
Des joints.
Bah ouais, ça circule.
Voilà la fin de la tournée.
Voilà.
Alors maintenant, on va aller voir s'il reste quelques personnes à la télévision.
Voilà.
Ce qui s'est révélé suite au drame de Pau dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de messages que nous avons reçus de lettres d'auditeurs. C'est plus que les questions que j'ai évoquées, questions de personnel, de matériel, qui sont évidemment des questions très importantes. C'est aussi la transformation de la psychiatrie, le quasi-abandon de la psychiatrie au profit de la médicalisation et l'abandon de la dimension humaine confisqué par la technique. C'est cet
abandon de la dimension humaine qui revient dans tous les propos qu'on a entendus des psychiatres, des soignants et aussi des patients. Là, la psychiatrie nous déroute, elle est faite pour ça. La folie nous déboussole, elle est faite pour ça. Face à la folie, que savons-nous, que pouvons-nous ? On ne sait pas, on est désarmé évidemment. Mais au moins, peut-on avoir, nous qui ne croyons les normaux, cette attitude-là, cette attitude d'humanité tout simplement. Et ceux qui travaillent la nuit dans cet hôpital-là le savent et le font.
Donc la jeune fille qui est en chambre d'isolement est une patiente qu'on a reçue par le biais de la justice, c'est-à-dire qu'elle nous a été confiée, elle vient des Baumettes, où elle a fait une tentative de suicide.
Voilà, ça c'est la chambre d'isolement.
Voilà, c'est la chambre d'isolement.
Il y a une porte qui est plus solide.
Voilà, porte plus solide, un lit soudé au sol.
Une deuxième porte sur le côté.
Voilà, une deuxième porte. Quand tu tiens des agitations, c'est bien.
De deux côtés. Voilà. Alors récemment, il y a eu une climatisation qui a été posée depuis l'année dernière. Mais jusqu'ici, les patients rôtissaient à 40 degrés et ils étaient quasiment en milieu exotique puisqu'il y avait même les moustiques pour...
Alors il y a eu des moments où les filles de jour disaient mais il faut prendre des consultations dermato, ils ont tous des boutons et tout. Et concrètement, je leur explique, en fait, c'était tout le monde avait des boutons parce qu'il y avait des moustiques.
Bonsoir mademoiselle. Les infirmiers de nuit vont bien vous donner votre traitement. Ouvrez les yeux de ce monde, je vous donne votre traitement et on vous laisse continuer votre nuit. Venez. Je sais que vous n'en êtes pas.
C'est la chasse d'eau.
Il peut arriver qu'elle fasse ses besoins et qu'on n'intervienne pas tout de suite. Bon.
Parce qu'elle, elle peut pas tirer la chasse de l'intérieur.
Non. Bon, il y en avait qui allaient jusqu'à boire l'eau des WC, quoi. Non. Tout peut être potentiellement une arme qui peut retourner contre lui-même.
Voilà, il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est ça. Deux, trois livres et puis pas d'affaires personnelles, voilà. Pas de vêtements.
Non, il n'y a pas de vêtements, pas d'affaires personnelles. Il nous arrive de mettre les patients nus. Il nous arrive de mettre les patients en chambre d'isolement.
Nus. Sans matelas.
Sans matelas. Voilà. Et sans drap, parfois. Parce qu'on se rend compte qu'on peut faire des nœuds avec des draps et qu'on peut s'étrangler ou qu'on peut se pendre. On déchiquette le matelas, on se met la tête dans le matelas. J'ai même vu des gens tenter de s'étrangler.
Évidemment, on se rend bien compte que cette fameuse chambre d'isolement renvoie à quelque chose de carcéral. Il y a des serrures, il y a des gonds, il y a des choses qui sont assez violentes. La plupart des gens qui sont dans cette chambre d'isolement le sont contre leur gré. L'espace est très petit. C'est un lieu qui est très près de la prison, en fait, hein, et qui est vécu comme ça par les patients, souvent.
Voilà, c'est une violence qui leur est faite.
Pour supporter cette incarcération, il faut absolument des traitements très importants, quoi, en fait. Parce que c'est tellement inhumain, qui est, aux yeux de beaucoup, bien pire que l'enfermement au Baumettes.
C'est aussi affreusement fort, je trouve que c'est vraiment étouffant dans cette odeur.
Oui.
Ça sent la sueur, ça sent les lignes.
Ça sent la nourriture.
Voilà, la nourriture qui stagne dans la pièce, quoi. Oui. Ici, c'est l'odeur de sueur, c'est l'odeur. La nuit, à 3h du matin, vous avez toutes ces odeurs de gaz, de pieds. Les patients n'ont pas toujours une hygiène satisfaisante. C'est pas agréable, quoi. Malgré le fait que je sois fumeuse, je suis toujours très sensible aux odeurs. Ça me dérange pas, c'est des odeurs de mon service, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand je dois rentrer dans certaines chambres, ben pendant quelques instants, je reste un peu en apnée.
chambres sont très sobres en général, non, c'est pas très gai, c'est vraiment le strict minimum à chaque fois.
Et ensuite, il y a eu quand même, le bâtiment s'est quand même pas mal dégradé. Les plantes se retrouvent couvertes de mégots de cigarettes, les tapisseries, enfin les revêtements de murs se retrouvent arrachés.
Ça reflète assez. Ça reflète assez un petit peu ce qu'est la maladie mentale, c'est-à-dire une espèce d'investissement de la vie qui est très minimal.
C'est le monde du psychotique, c'est un monde tout à fait à part.
Linda, dans l'électrochoc, un état flaque par lequel passe tout traumatisé. Qu'il lui donne non plus, à cet instant, de connaître, mais affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas.
C'est des grandes ou des petites, ça, tu crois?
C'est pas, on va en prendre deux. Mais c'est la difficulté.
Oui, moi ça me va, Figatelli.
Ça te va, Figatelli? Tu sais pas ce que c'est? Figatelli, c'est une saucisse de foie qui est faite en Corse.
La Marina? Ouais, bonsoir, c'est des infirmiers. Là, on voudrait vous commander deux pizzas, s'il vous plaît. Alors, on est en psychiatrie, au deuxième étage du service Naudin. Oui. Alors, oui, une Figatelli fromage et une aux trois fromages. Ouais, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Bonsoir.
Voilà, d'ici une vingtaine de minutes.
Avec les infirmiers et infirmières de nuit de l'hôpital du quartier de psychiatrie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Et voilà, c'est le moment du repos, c'est le moment de commander les pizzas. Et puis, avec la voix quand même, auparavant, d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, Raymond Roussel, Nietzsche, Van Gogh, en 1961, Michel Foucault, auteur remarqué, remarquable d'une histoire de la folie, disait que il pensait qu'à nouveau la folie devenait un phénomène de civilisation extraordinairement important, disait-il. La folie redevient, mais on était en 1961, redevient chargée de porter en quelque sorte la vérité, d'exprimer dramatiquement notre époque. Eh bien... oui, ça c'était en 1961. Aujourd'hui, la question de la folie, la question de la psychiatrie est évacuée, est marginalisée, est éclue, et surtout disparue et déniée. C'est pourquoi nous sommes là cette nuit avec Olivia dans l'hôpital de la Timone à Marseille.
Les uns et les autres, quand on a commencé sur les bons souvenirs, vous dites toujours c'était. Qu'est-ce qui a évolué, on va dire, en 30 ans?
C'est vrai qu'avant, on avait le temps. Aujourd'hui, pour un homme, travailler en psy, c'est un stress terrible.
Parce qu'il y a... Malade, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas comment il s'appelle, pourquoi il est là, et on vient juste pour lui donner un traitement, pour le regarder, attendre qu'il prenne la douche et tout, et repartir et aller ailleurs, quoi. Je veux dire, bon, c'est...
C'est un boulot, ce boulot le matin, c'est pas être infirmier quoi de faire ça. Bon. Nous là, les gens qui sont infirmiers depuis plus de 20 ans ont connu les années d'or de la psychiatrie, les années où on sortait avec les patients, les années où le travail était un autre travail, c'est-à-dire c'était vraiment un travail axé sur une resocialisation, sur une espèce d'utopie, sur la réinsertion du patient, savoir qu'il a un appartement, qu'il arrive à se gérer à peu près chez lui. Pour nous, c'était des réussites et c'était assez valorisant. Aujourd'hui, cet aspect de notre travail n'existe plus.
Et
bon, puis maintenant, il y a autre chose aussi. Bon, point de vue économique aussi. Tarification à l'activité, ça veut dire que telle maladie, c'est tant de durée, etc. et tout, quoi, en gros, quoi.
La société est devenue globalement plus violente. La psychiatrie n'étant pas imperméable à la société, cette violence, c'est-à-dire qu'en plus de la pathologie, il y a une espèce de on va dire, psychopathie de la vie quotidienne.
Tu trouves qu'il y a plus de violence qu'avant?
Oui.
Est-ce que c'est parce que les patients étaient plus contenus par la camisole chimique, par les médicaments?
Il y a moins de psy, moins d'hommes, et il y a plus de malades, justement, sociopathes. Il y a de plus en plus de gens qui ont rien, quoi. Évidemment, quand on n'a rien, on n'a plus rien à perdre, quoi. Il n'y a plus de tabou, de crainte, quoi que ce soit.
Ils ont un avenir incertain, ils ont un échec scolaire. Enfin, c'est tous les problèmes de la société qu'on peut reprendre. Ici, on voit arriver cette nouvelle vague de patients, ces sociopathes, parce que tout simplement, ben, il y a des carences dehors, quoi. Ils arrivent en bout de chaîne ici. Ce que j'appelle les cabossés de la vie, c'est ces gens qui sont en rupture de tout, mais qui ne présentent pas d'emblée de pathologie psychiatrique. Je pense que c'est la société qui les a fait, quoi.
La même chose dans une autre configuration, une société plus généreuse qui est plus capable de prendre en charge ces gens-là, elle aurait pas amené ces gens peut-être jusqu'en psychiatrie. Mais aujourd'hui, avec la précarité, c'est des facteurs qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc manque d'éducation, misère affective, et après là-dessus, problème de chômage, problème de divorce, chômage, tout ça. Ça fait un tel agglomérat que les gens pètent les plombs vraiment, quoi. Ouais. Guérir ses patients, ça voudrait dire guérir la société. Et là, on se sent très impuissant. Parce que... Ben, quelle utopie, oui.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Bon, ben, si on leur proposait simplement de faire halte, c'est déjà beaucoup. Et puis après, on pourra pas tout résoudre, de toute façon. Pas résoudre les maux de la société.
Non, voilà. Non, mais comme tu dis, les cabossés de la vie, ça fait chier de les voir cabossés, quand même. Bon, leur proposer une halte, c'est bien. Mais au-delà de ça, ça fait chier d'être impuissant à rien pouvoir faire vraiment pour eux sur le fond, quoi.
Imagine, tu penses qu'il devrait y avoir un peu plus de social dans la psychiatrie, finalement?
Ah oui, bien sûr, c'est un axe très important. Et moi, je dis, si on, enfin, on sait qu'on sent qu'elle doit changer cette psychiatrie, qu'elle soit plus humaine.
Le ministre, Monsieur Douste-Blazy, vous a promis. Un, avec beaucoup de zéros derrière, pour la psychiatrie, ça c'est rassurant plutôt, non?
1,4 milliard, je crois. Ça semble moins du saupoudrage, hein, pour moi, c'est...
Eliane?
On peut nous promettre ce qu'on veut, enfin, la réalité du quotidien, elle est ce qu'elle est. Les promesses, ça sert aux enfants et aux infirmiers à se tenir sages.
Il est de plus en plus inquiétant.
À 32 ans, elle est hospitalisée chez nous depuis plusieurs mois. Elle a été adressée pour prise en charge après plusieurs tentatives de suicide aux médicaments. Elle a été pendant près d'un mois et demi en chambre d'isolement. Et là, les troubles ont peu à peu disparu. Si on gratte un peu, on trouve quand même encore quelques idées... Moi, je qualifierais de mystique. Elle pense aussi que elle va mieux grâce au fait qu'elle ait pris de l'eau de Lourdes. On a eu quand même des grandes délires mystiques. On avait un patient qui se prenait pour Jésus-Christ et donc il avait tué ses deux grands-mères. Il disait qu'il s'était ainsi ôté les clous qu'il avait dans les mains. Bon, les attentats du 11 septembre ont déstructuré quelques patients. Le tsunami aussi, dans le sens que certains s'en sont sortis responsables. Voilà, le tsunami, on a eu un patient, c'est un jeune patient de 27 ans, qui nous disait que comme il était tout puissant, il pouvait ainsi commander aux éléments et qu'il était responsable du tsunami.
On va voir Alice.
Avoir déplacé des meubles, avoir dansé dans la chambre, essayer de faire du karaté, de la danse, des choses complètement farfelues.
Une pantomime. En fait, comme on dit à Marseille, tu fichais la panique, quoi, pour pas dire autre chose.
Oui.
Voilà.
Oui, ça peut être. Pour vous, ça va être perçu comme foutre la panique.
Ouais.
Et moi, de mon côté, je me souviens de résistance. De résistance à des règles qu'on m'imposait. Se retrouver enfermé dans une pièce, bon, a jamais fait plaisir à qui que ce soit. Bon, avoir des horaires, attendre, quémander un repas, quémander. Tout ça, à ce moment-là, pour moi, j'étais dans un monde imaginaire.
Est-ce que c'était bien?
Oui. Ça a été très douloureux aussi, parce que... Parce que j'ai cru, par exemple, lors d'une période, rencontrer la fille de Whitney Houston. Et pourtant, ce n'était pas la fille de Whitney Houston.
Est-ce que c'était quelqu'un d'imaginaire que tu avais dans ta tête, que tu voyais?
Ah non, c'est, je l'ai touchée, je veux dire, je savais qu'elle existait bel et bien. C'était pas le fruit de mon imagination et l'entendre chanter non plus n'a pas été le fruit de mon imagination. Elle chantait quand des problèmes se posaient. Mais c'est là où je me demande si on a été si j'ai été dans ces lieux en même temps que vous. Parce que justement, ce sont des personnes que vous n'avez pas rencontrées ou...
Tu prends aussi des médicaments?
Oui. Ah, ils sont abrutissants. Ils peuvent ralentir la cadence. C'est ça qui est difficile à accepter. Ne pas toujours devoir... Ne pas être à la traîne et ne pas avoir besoin d'un système parallèle pour pouvoir exister.
Sommes-nous tous si différents? Ou plutôt, qu'est-ce que la différence? Une différence est-elle une déviance mentale? Qu'est-ce qu'une maladie? A-t-on le droit de priver certaines personnes de leur liberté sous prétexte qu'elles sont différentes de la norme? Vivons-nous dans une norme? Vivons-nous pour vivre dans une norme? Faut-il systématiquement utiliser des modificateurs de comportement chimique qui transforment des personnes dites différentes en légumes? Peut-on faire changer des idées reçues? Et alors, quelles idées? C'est des questions que se posait un festival mental d'un collectif qui s'appelle Droit à la différence mentale. Ces questions l'intéressent
plus personne. Je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais ça n'intéresse plus personne. C'est-à-dire que la remise en cause de la raison par le déraisonnable, l'idée que la raison n'est jamais qu'une folie qui a réussi, comme disait Castoriadis, ces histoires-là ne nous intéressent plus. Il y a être dedans ou être dehors. Dehors, c'est être exclu. Et là, le malade mental, le déviant mental, fait partie de cette exclusion. Donc, il doit être caché, il doit être dissimulé, il ne doit surtout pas gêner, encore une fois, le moral des ménages, car, répétons-le, le moral des ménages est capital. On continue dans cette nuit, qu'on a appelée la nuit des garde-fous, à l'hôpital de la Timone à Marseille, avec Simone, infirmière psychiatrique, et Alice qui parle.
Mais juste pour comprendre, dans ces murs-là, toi, tu t'y sens plutôt enfermée ou protégée ?
Je peux m'y sentir protégée, mais je peux m'y sentir étouffée aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où maintenant, la barrière est de plus en plus impitoyable entre ceux qui travaillent et qui ne travaillent pas, ceux qui ont dû avoir des difficultés à un moment donné, ou qui en ont encore.
Avoir fait des séjours dans un hôpital psychiatrique peut stigmatiser, peut...
Oui. Peut stigmatiser et mettre une étiquette sur quelqu'un à vie et rebuter après le contact avec la personne, faire peur, terroriser l'autre. Peur de la folie, de croire que la personne est rentrée dans un monde où la personne elle-même, qu'on ait pu sortir de cette routine et frôler la folie. Ce sont des personnes qui vont plus avoir envie d'avoir contact avec vous à un moment donné ou à un autre. Déjà, cet univers, il est factice, donc il est temporaire. C'est pénible. Je pense qu'on est dans un monde où on doit tout faire vite, très vite. On doit donner le meilleur de soi-même tout de suite. On doit être efficace tout de suite dans le monde professionnel. On doit être... Voilà, on est dans une société où c'est du rentre-dedans, à la limite. On peut en vouloir à ces gens qui ironisent de manière trop acide et trop perfide. Et je crois que c'est là où justement même la sensibilité rentre en jeu. Et pour le peu que vous en ayez un bon sac à dos, bon ben, elle va être plus vite ébranlée.
Il pleut.
Le ciel est là pour nous le rappeler. Le monde de la nuit est plus agréable tout de même. Moins de contraintes. J'ai toujours rencontré chez le personnel soignant de nuit moins de préjugés. La nuit fait peur. Et justement, quand vous parlez de ce cadre, est angoissant. Ce cadre, c'est ces vitres qui sont sales, qui auraient besoin d'être nettoyées. Cette fenêtre qu'on aura envie d'ouvrir en grand.
Toujours ces ombres chinoises des arbres.
Oui.
Ce fameux loquet qui ne permet pas d'ouvrir en grand. Voilà. On peut juste entre-ouvrir, même en plein été.
Et le silence aussi. Hein,
et le silence de la nuit.
Il y a quel heure le couvre-feu ?
Il est supposé être à 10h, mais on enfreint les lois. Mais on nous rappelle vite à l'ordre aussi.
Merci, va porter les traits.
Et tout le monde en parle. De Marc-Olivier Fougiel. Voilà. Mais voilà le couvre-feu.
Ils ont fermé.
Et donc on ne peut pas voir la fin de l'émission.
J'aurai le charme.
Oui, merci. Les petites bouées de sauvetage. Ouais. Non, on n'est pas avec des dragons non plus. Merci.
Merci à tous, merci à Sarina, notre auditrice, qui avait adressé ce message qui est le motif de cette émission. Deuxième partie demain, merci aussi à Simone, à Gilles, à Eliane, à Vincent, à Alice, qu'on vient d'entendre. Merci au professeur Naudin qui a accepté la réalisation sans condition de ce reportage à l'hôpital de la Timone à Marseille. Merci aussi au docteur Paul Macheteau et à tous ceux qui nous ont enseigné, alerté, documenté sur ces sujets. À relire évidemment Michel Foucault, l'histoire de la folie. Autre chose tout à fait différent, ce soir à voir ou à revoir la pompe afrique, Elf, la pompe afrique. Vous vous souvenez de ce spectacle de Nicolas Lambert dont nous avions eu des échos dans la basse, j'y suis, c'est à 20h à Villeneuve-d'Ascq, à la cité scientifique 59 655 Villeneuve-d'Ascq, à l'initiative de survie. Voilà, ce soir 20h, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique La Basse J'y suis. Technique aujourd'hui Ludovic Asselot et Michel Bézikian, Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal E, Pascariello, c'est l'équipe de La Basse J'y suis. Le répondeur de La Basse J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37, et c'est Christophe Imbert et Raphaël Moutarde qui s'en occupe. Le mail de La Basse J'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Au bout de 36 secondes de pub, vous allez retrouver Charivari avec Frédéric Bonneau. On se retrouve, nous, demain à 17h pour La Basse J'y suis. Salut.